Bonjour à tous. M'entends-tu mieux comme ça? Donc, je vous invite à tourner dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Et aujourd'hui, j'ai intitulé le message « Principe d'évangélisation ». Évidemment, loin de moi l'idée de couvrir tout ce qui concerne l'évangélisation dans ce passage, mais c'est un des passages, en fait, c'est le passage le plus détaillé d'un discours à une société qui est illettrée du point de vue biblique, et non pas illettrée qui ne savait pas lire, parce que c'était la ville numéro un en importance en ce qui concerne les écoles, c'était le berceau de la philosophie dans la Grèce antique. Et la pertinence d'étudier un livre historique avec un contenu où ce que nous avons des discours à l'intérieur va peut-être nous permettre de percevoir comment l'apôtre a transmis l'Évangile. Et en même temps, c'est un défi pour nous aujourd'hui, en tant qu'individus, en tant qu'assemblée, de se remettre en question. Et moi-même, en étudiant ce passage, d'ailleurs, j'ai commencé à étudier ce passage parce qu'il y avait des choses dans ma propre évangélisation qui faisaient défaut, ou que je trouvais qui faisaient défaut. Et on va commencer à lire à partir du verset 16. Comme Paul les attendait, il s'agit de Silas et de Timothée qu'on voit au verset 15, comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble annoncer... » Il semble être un prédicateur de divinités étranges. Et c'est cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage et dirent, « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu nous parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges et nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens, et les étrangers venaient et passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. Et Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec une inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu, pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, ou à des pierres sculptées par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, maintenant, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'attendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux, et quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, c'est un beau passage qu'on a ici. C'est une société qui nous ressemble à beaucoup d'égards, Seigneur. On veut regarder ce discours de Paul à Athènes et apprendre peut-être mieux comment communiquer l'Évangile, comment garder important ce qui est important et comment te glorifier à travers cette communication de l'Évangile, Seigneur. Et aussi, ça passe par des vies transformées en comprenant le contenu de ce message, Seigneur. Et on veut te demander d'agir puissamment à travers ce texte dans nos cœurs, afin qu'on puisse t'adorer, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même un bon texte, mais ça a pris 2 minutes à lire. Et je ne pense pas que Paul a pris 2 minutes à l'aéropage pour communiquer tout le contenu qu'il y a là-dedans. Et donc, beaucoup de commentateurs, et en fait, même Luc, dans sa façon de travailler, on peut voir que dans ce discours qu'il fait à l'aéropage, chaque verset devient un point sur lequel il développe plus grandement. Et si on veut voir comment il développerait chaque point, on peut lire le restant des épîtres de Paul, ses lettres, et regarder comment qu'il développe les différents thèmes qu'il va amener. Et aujourd'hui, je ne prendrai pas, j'ai divisé le discours en 9 sections, et je vais prendre juste un élément de ce discours. En fait, c'est l'élément probablement le plus difficile à communiquer en ce qui concerne le péché. Et Paul a une façon particulière d'amener les personnes à la repentance en utilisant une catégorie biblique autre que la loi. Et quand je dis la loi, c'est souvent une des façons qu'on a de présenter et de faire conscientiser les personnes qu'ils sont pécheurs. Je vous donne un exemple. Est-ce que tu vas convoiter? Et là, la réponse, c'est certaine, va être oui. Ah, tu vois, tu enfreins un des 10 commandements. Tu es coupable, tu as besoin de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une catégorie qui revient et qui revient et qui revient. Et souvent, même moi, j'ai de la difficulté à me sortir de ça, parce que c'est facile de le démontrer que la personne est pécheur à partir de la loi. On a juste un commandement. Est-ce que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Non, tu es bâté. Et Paul s'y prend d'une autre façon. Et aujourd'hui, on va voir le prédicateur, son approche. En fait, ce n'est pas une méthode que je propose, mais c'est plus une approche. Et on va voir l'auditoire, le message, et aussi, j'ai appelé fonder une église. Et c'est un petit peu le défi pour notre assemblée et pour nous, individuellement, en ce qui concerne notre propre message. Mais avant, quelques considérations, entre autres au niveau du discours de Paul. Les sources que Luc utilise dans le discours de Paul, peut-être que c'est Paul lui-même qui, Luc, a accompagné Paul à plusieurs endroits dans le livre des Actes. Mais aussi, il est intéressant de remarquer que Étienne a sensiblement le même discours dans Actes chapitre 7 en ce qui concerne le contenu et le cheminement des idées, et surtout la conclusion est sensiblement pareille. Et Paul, à cette époque nommé Saul, avant sa conversion, a assisté au discours d'Étienne. Et peut-être que le discours d'Étienne a marqué Paul et qu'il s'est rappelé après sa conversion. Et la méthode de Paul est pratiquement semblable à celle d'Étienne dans Actes chapitre 7. Et même dans Actes chapitre 13, Paul fait un autre discours, et cette fois-là, en Pisidie, l'église d'Antioche en Pisidie, qui va utiliser sensiblement aussi le même thème, le même cheminement d'idées, mais dans un auditoire différent pour des Juifs. Des Juifs, soit de naissance ou soit convertis, mais des Juifs. Le discours est sensiblement pareil. Et pourtant, un parle à une population qui connaissent la loi et ils s'y attendent une population qui ne connaissent pas la loi. Je vais amener quelques éléments de réflexion sur ce sujet tantôt. Mais Paul, il y a un verset clé dans le passage, au verset 30, qu'ils aient à se repentir. Paul veut amener les personnes à la repentance. Et dans la façon de travailler de Paul, ça découle d'une compréhension de qui est Dieu. Dieu à travers la création. Donc, le témoignage de la création, et on voit la même chose aussi en Romains chapitre 1. Il commence avec la création et il veut amener les personnes à la repentance. Mais aussi en utilisant la certitude d'un jugement qui va arriver. Donc, ce n'est pas seulement un Dieu qui est lointain et puis qui a laissé sa création, puis que let's go, là, c'est parti. Mais il y a plusieurs différences entre les discours, et je ne les prendrai pas toutes, mais c'est une esquisse qu'on a d'un discours où chaque verset semble être un point qui a duré probablement, comme l'habitude des Athéniens à cette époque, probablement 2 à 3 heures, et qui a disserté sur le passage. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le discours est interrompu. Paul n'a pas le temps de finir son discours. Et certains ont dit, après la résurrection d'entre les morts, et là, il y a 3 petits points. Et lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, quelques-uns sont partis et d'autres se sont accrochés à Paul. Mais quand même, on sait où ce que Paul allait. Parce qu'au verset 18, il appelle Paul à parler de la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. C'est ça qu'il annonçait. Et donc, la conclusion de Paul à la fin du chapitre 31 va donc être la résurrection, puis la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, on peut faire une première observation dans le texte, dans la comparaison de ces textes. C'est que Paul a la capacité d'adapter le message de l'évangile, mais sans diminuer pour autant son contenu. Il parle à des Juifs, il parle à des Grecs, le contenu reste semblable. Les éléments centraux restent centraux, mais il va adapter son langage. Même que dans Acte 17, il va citer un auteur non chrétien, un philosophe. Paul adapte son langage. Et ma première application que je ferais, de façon personnelle, suis-je capable de m'adapter à mon auditoire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je connais assez l'Évangile pour être capable, dans des situations différentes, d'adapter mon langage? Si je parle à un mormon ou un témoin de Jéhovah, bien, ça va être complètement différent que si je prends quelqu'un qui étudie en biophysique et puis qui fait son doctorat à l'université. Mais est-ce que je suis capable d'adapter mon discours sans diminuer le centre du message? Et en ce qui concerne la ville d'Athènes, il y a au moins 3 choses qui nous sont dites dans les premiers versets. Premièrement, c'est qu'ils voient l'idolâtrie qui est en masse et toute la population semble être en quelque sorte idolâtre d'une façon ou d'une autre. Et ensuite de ça, il y a une haute estime donnée à la connaissance et aux écoles philosophiques. C'était la première ville en importance au niveau de l'éducation, au niveau des écoles de philosophie. Et troisièmement, on pourrait regarder aussi la préoccupation des Athéniens et des étrangers qui passaient à Athènes pour justement aller s'entretenir sur les dernières idées, puis aussi de discuter. Puis c'était une démocratie, donc on avait notre parole, on avait droit de parole et de discuter là-dedans. Mais Paul, commençons par le prédicateur. Quand Paul entre dans cette ville, il utilise une catégorie biblique pour observer cette ville, l'idolâtrie. Il voit des choses. Et ce qui l'impressionne, ce n'est pas ce qu'on pourrait s'attendre de cette ville. comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il y a une catégorie biblique. Il arrive d'une place et lui, il analyse cette culture à travers les yeux de la Bible. Il crée une structure de pensée qui va l'amener à avoir une vision du monde biblique. Il voit Athènes, et non pas que cette ville n'était pas attrayante. Je veux dire, on suffit de regarder les manuels d'archéologie, puis on voit l'architecture qui était merveilleuse. C'était une des grandes villes qui était quasiment à près d'un million d'habitants à cette époque-là. Donc, c'est une ville qui était extrêmement importante. Mais lui crée une structure de pensée biblique parce qu'il voit le monde comme Dieu. Et donc, la culture ne l'influence pas pour analyser cette ville-là. Et s'il y aurait parti de la culture pour analyser cette ville-là, bien, il aurait toujours été à la merci de cette culture-là. Et une des tendances qu'on a dans nos assemblées, dans les universités, c'est cette étude de la culture. On envoie des missionnaires et là, on les forme à étudier la culture et appuie. C'est correct, il y a une place pour ça. Mais ce n'est pas la place principale pour ça. Mais ça demande un effort de volonté et d'intelligence pour analyser et regarder cette ville-là à travers les yeux de la Bible, à travers les yeux de l'Évangile. Et on voit la méthode de Paul qui se met en place ici, ou l'approche de Paul de regarder la ville selon les yeux de la Bible, entretenir des discours. Mais on sait qu'il a étudié avant. Il ne se lance pas dans une évangélisation inintelligible. Il cite des philosophes de leur temps, il a trouvé une statue à un Dieu inconnu. Il a pris la peine de regarder. Il fait des ponts. Il les approche. Et l'auditoire. Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et là, je ne disserterai pas, je ne ferai pas un long exposé sur les épicuriens et les stoïciens. Ça pourrait être très intéressant. Mais simplement quelques points de réflexion. Quand on prend un livre de philosophie, les épicuriens et les stoïciens sont souvent connectés ensemble. On les voit souvent reliés un à côté de l'autre. Et ces deux philosophies de la nature, on les appelle souvent les premiers atomistes, donc qui ont construit une théorie de la physique. Il y avait des points de divergence, mais en ça, c'est qu'ils voulaient sortir de la philosophie de Platon, ce que lui avait amené les idées. C'était les idées, l'idéalisme de Platon. Et donc, il n'y avait pas juste la matière, mais il y avait autre chose. Et eux, ben, ils voulaient un petit peu combattre ces idées-là et amener une philosophie de la nature plus matérialiste. Et les épicuriens, eux, ben, ils croyaient que les dieux étaient tellement petits qu'ils étaient entre les atomes contenus dans l'univers. Mais était tellement distancé que pour bien vivre, dans le fond, il fallait se distancer de ce monde. Parce qu'eux étaient loin de ce monde. Et eux vivaient des plaisirs. Ils vivaient des passions. Ils étaient heureux. Et par conséquent, eux ben, disaient, ben, faut faire comme les dieux, il faut se distancer, il faut avoir des plaisirs, il faut avoir des jouissances dans la vie, il faut qu'on se fasse du fun. Le dicton préféré de ces personnes, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais les dieux étaient tellement loin qu'à un certain point, beaucoup d'épicuriens sont devenus pratiquement athées. Ils ne croyaient plus à l'existence de Dieu. Et les stoïciens, eux, c'était un petit peu, pas l'inverse, mais eux étaient très moraux. Les dieux, eux, ils géraient parce qu'ils regardaient les lois, puis ils disaient que Ça, tout est coordonné, tout est bien placé. Il y a une loi, il y a des lois qui gèrent le monde. Il y a une moralité qui est là. Alors là, ils se renfermaient, eux, à travers cette moralité-là qui était très, très stricte. Et eux, ben, les plaisirs, les joies, l'amour, la sympathie, ben, ils mettaient ça de côté. Mais par exemple, on pourrait les qualifier de bons pharisiens. Mais Paul parle d'un Dieu qui a tout créé, qui a créé le monde, tout ce qui s'y trouve. Pour eux, chaque peuple avait un Dieu ou des dieux. Et à Athènes, il y avait plusieurs milliers de dieux, puis dans les hindous, en ont plusieurs millions. Et les Athéniens, eux, ben, à la limite de leur connaissance, en ont mis un, là, en cas qu'ils n'aient oublié un. Mais Paul va réfuter les arguments. Et là, il sera encore intéressant de regarder comment Paul réfute les épicuriens et les stoïciens, mais on va voir un petit peu tantôt, mais on va garder notre énergie pour d'autres choses. Mais il veut les amener à la repentance. Et il faut comprendre que quand que Paul aborde ces philosophes ou ces étrangers qui sont à Athènes, bien, eux-mêmes ont un bagage culturel, un bagage de croyances qui, éventuellement, bien, va falloir briser, arracher des conceptions, ajouter du contenu, refaire leur vision du monde. C'est pas qu'il arrive là, puis quelqu'un qui ne croit pas en Dieu est prêt à tout recevoir. Qu'est-ce qu'il va amener? Au contraire. Et il vaut peut-être la peine de dire une petite différence entre aujourd'hui et cette époque, parce que la philosophie, aujourd'hui, a une connotation très, très universitaire. Tu sais, on dirait que c'est réservé à une espèce d'élite intellectuelle qui ont à cœur de comprendre Platon et d'autres philosophes de livres de chevet, là, quand on s'endort. Mais à l'époque de Paul, la philosophie était plutôt une vision du monde, dans lequel on partait d'un principe général, comme les épicuriens, eux, le principe avec les dieux qui était tellement petit, puis de là, ils vont découler avec les atomes et tout le reste, et qui va se répercuter dans leur propre vie. Les dieux sont distancés, alors il faut que je vive comme les dieux. Les stoïciens, bien, les dieux, bien, sont loin, mais sont très, très moraux. Alors là, ça se répercute dans la vie. Donc, c'était une vision du monde. Et eux, quand ils ont vu Paul parler, ils trouvaient ça étrange. Tu annonces des divinités étrangères et sûrement étranges. Parce qu'ils perçoivent, selon leur propre catégorie, leur propre culture, qui, eux, peut-être qu'ils n'avaient jamais considéré le monothéisme. Peut-être qu'il y a un Dieu pour eux. C'était complètement loin. Mais Paul était invité. Il était invité à aller parler devant cette gang de philosophes, d'étrangers qui étaient là, probablement les politiciens aussi de la ville. Et voici ma deuxième application. Suis-je prêt à témoigner de Jésus-Christ? Encore une fois, est-ce que vous connaissez assez l'Évangile que quand quelqu'un demande « De quoi tu parles? » Bien, je vais te l'expliquer. Donc, j'ai une capacité de m'adapter, mais j'ai une capacité de dire « OK, moi y aller. » Est-ce que je suis prêt? Son message. Et donc, rappelons encore une fois que c'est simplement des points, donc les éléments clés, l'esquisse de Paul dans son discours, qu'il fait. Mais avant, quelques considérations en préambule de son discours. Et Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement religieux. » Aujourd'hui, on ne dirait pas ça. On dirait quelque chose dans le genre « Oh, je vois que vous êtes extrêmement spirituel. » On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est un point de contact. Mais souvent, j'ai lu beaucoup de commentaires et beaucoup de commentaires ont tendance à dire que c'est comme un élément positif. Ah, je vois que vous êtes religieux et là, je crée un pont culturel afin que je puisse parler de l'Évangile. Et pourtant, le contexte nous montre que c'est dans un sens négatif que Paul l'utilise. Il avait l'esprit exaspéré face à toutes ces idoles dans la ville. Mais quand même, Paul choisit ces mots. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Il n'utilise pas le mot « idole », parce que le mot « idole », je vois toutes vos idoles, aurait accusé les Athéniens. Et peut-être qu'ils ne l'auraient même pas écouté. Si je commence une discussion en accusant de fausseté celui avec qui je vais parler, il y a des fortes chances qu'il nous écoutera, peut-être même pas dans ce qu'on va avoir à parler. Et Paul, quand même, choisit ces mots. J'ai même trouvé une telle inscription à un Dieu inconnu. Et Paul voit, en quelque sorte, une confession d'ignorance. C'est de celle-là que je vais parler. Et quand je vois ces versets, je ne peux pas m'empêcher de penser aux autobus. Vous avez vu les pancartes sur les autobus? Dieu n'existe probablement pas, alors cessez de vous en faire et vivez. Philosophie épicurienne. Vous avez vu ça à Montréal? Qui n'a pas vu à Montréal les... Qui n'a pas vu à Montréal? Ben. Donc, Richard Dawkins, qui est le porte-parole des athées, qui est un professeur de philosophie et de biologie à l'Université Oxford en Angleterre, lui a décidé de mettre sur les pancartes en Angleterre cette icône. Dans le fond, Dieu n'existe probablement pas, alors cessez de vous en faire et vivez. Et l'Association humaniste au Québec, des sceptiques du Québec, a amené aussi ça sur les autobus à Montréal. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été troublés de cela. Et moi, je suis parti à rire. J'ai dit, ils nous mettent sur les autobus qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Dieu n'existe probablement pas. On ne sait pas. Et quand on rencontre des personnes qui disent, « Ah, moi, je ne crois pas en Dieu, moi, je suis un athée. » Mais il suffit juste de poser la question, « Ah, tu es capable de me prouver que Dieu n'existe pas? » J'ai hâte d'entendre ça. Ben non, ben là, je ne suis pas capable de te prouver qu'il n'existe pas, là, mais ben, tu n'es pas athée. Tu ne sais juste pas. C'est ça. Mais quand même, Paul n'est pas arrogant, il choisit ses mots. Et dans nos universités au Québec, des fois, il faut augmenter le ton un peu. Je ne suis pas sûr que je dirais que vous êtes spirituel, mais... Et il y a deux thèmes principaux, en réalité, qui reviennent dans le discours. Le premier, c'est la question de l'idolâtrie. Et la deuxième, c'est la question de la connaissance, qui revient à plusieurs places que je n'ai pas soulignées, ou plutôt le manque de connaissance. Et Paul va venir les entretenir sur ces sujets-là. Et entre autres, j'ai divisé en 9 points, et plusieurs plans qu'ils font en 4, mais en 9 points, peut-être ça va un petit peu mieux pour diviser le discours de Paul. Premièrement, Paul établit que Dieu est créateur. Il y a une approche créationniste. Mais il ne reste pas là. Paul insiste que Dieu est Seigneur du ciel et de la terre et qu'il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu se suffit à lui-même. Il y a un terme qu'on appelle l'acéité de Dieu en philosophie qui dit que Dieu se suffit en lui-même. Il n'y a pas besoin de nous. Avant que Dieu fasse la création, il était complètement bien. Là. Il n'y avait pas besoin de Jean-Luc Lefebvre. Là. Il se suffit en lui-même. Et par conséquent, ben, nous sommes dépendants de lui et non l'inverse. Et cinquièmement, il amène, après avoir fait la théologie, donc l'enseignement sur Dieu, il va passer à l'anthropologie, anthropos, du mot homme, qu'on voit aussi au verset 26. Ensuite de ça, au verset 27, on lit « Afin qu'il cherche Dieu, pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. » Et c'est seulement à partir de ce moment qu'il introduit quelque chose de négatif à travers la création. Et Paul montre donc l'importance de la transcendance de Dieu. C'est un grand mot, je n'ai pas trouvé l'équivalent en moins long. Ça veut simplement dire que Dieu a cette capacité d'interagir avec sa création. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, comme que les épicuriens et les stoïciens pensaient, mais c'est un Dieu qui est près de nous parce qu'on tire notre source, toute notre être, de lui. Et donc, le problème, c'est l'idolâtrie. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on a transgressé la loi. Quand il parle aux Juifs, il prend la même catégorie. Avant la loi, le monde, il mourrait pareil. Il ne mourrait pas à cause de la transgression d'une loi. Même si les lois sont contenues dans Genèse, il était idolâtre. On s'est fait nous-mêmes notre propre Dieu, notre propre chemin. Et par conséquent, on est idolâtre. Et c'est ça le problème que Paul va attirer l'attention. Et ensuite, il va amener la philosophie de l'histoire. Entre autres, c'est que même les Juifs, mais surtout les Athéniens, avaient une vision plus circulaire de l'histoire. L'univers est éternel, et donc on meurt, on renaît, puis tu sais, l'univers est éternel. Mais Paul y va avec une philosophie de l'histoire linéaire dans laquelle Dieu a tout créé, qu'on dépend de lui, mais que nous-mêmes, on s'est fait notre propre Dieu, et qu'à travers tout ça, un jour, il va avoir un jugement. Et un des problèmes, si on compare aussi avec Actes chapitre 13, quand il parle aux Juifs, il fait la même chose. Et une des différences entre l'interprétation des Juifs et des apôtres en ce qui concerne l'Ancien Testament, la Bible de cette époque-là, c'est que les Juifs n'avaient pas une vision historique de la chose. Ils attendaient un Messie, mais la loi prenait tellement de place qu'en regard de la loi, toute la Bible s'interprétait. Comme par exemple, si vous posiez la question comment que Moïse fut justifié, ben, parce qu'il respectait la loi. Et comment David fut justifié? Ah, ben, il a respecté la loi. Et comment qu'Abraham fut justifié? Ben, probablement parce qu'il a respecté la loi. Et la loi n'était pas donnée. Et donc, Paul montre une vision historique, une philosophie de l'histoire dans laquelle il y a un commencement, mais qui va avoir un jugement aussi, mais qu'on tire notre être à partir de ce commencement. Et amener Jésus avant ce point, bien, il l'aurait simplement interprété selon leur propre culture. Ah, bien, c'est un autre Dieu, c'est un autre philosophe, c'est une autre divinité quelconque. Donc, il a fallu préalablement que Paul remette Jésus dans son contexte comme que lui est réellement, pour pas qu'il soit interprété d'une mauvaise manière selon leur propre philosophie, selon leur propre culture. Et aujourd'hui, bien, c'est important aussi d'amener Jésus d'une façon à ce qu'on ne fait pas juste présenter Jésus à quelqu'un qui est complètement athée, et puis lui, pour Jésus, c'est juste un philosophe qui a amené des belles choses. Et là, je ne dis pas, comprenez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer par la création. Tu sais, en quelque sorte, je m'en fous de où ce que vous commenciez. Quand tu commences par Jésus, tu commences par la création. Par contre, il faut faire un terrain dans lequel Jésus va être ce qui est. Et c'est un des éléments que Paul n'était pas prêt de laisser tomber. Et maintenant, dans ces neuf-là, j'ai choisi un, le problème de l'idolâtrie. parce que c'est le point le plus difficilement communicable. Comment transmettre le message du péché? Ah, la création, ça, il n'y a pas de problème. On part de la science, puis on s'en va. Le problème de l'homme, ça commence à faire défaut un petit peu, parce que là, je suis en train de dire à la personne, « T'es coupable, mon gars, ou ma fille. » Et là, ça devient plus difficile. Mais avant, catégorie, idolâtrie. Définissons l'idolâtrie, que j'ai fait en mes propres mots en tenant compte de Romains chapitre 1, Actes chapitre 17, Actes chapitre 7 et 13 et Isaïe 66. Rendre quelque chose plus important que Dieu. Ne pas glorifier Dieu, but pour lequel nous avons été créés. Il vaut la peine de considérer le discours en ce qui concerne l'idolâtrie au chapitre 7, versets 48 jusqu'à 50. Et c'est le discours d'Étienne. Et tantôt, je disais qu'il y avait beaucoup d'allusions entre les deux discours. Et entre autres, on va parler de l'idolâtrie. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme dit le prophète. Et en l'occurrence, il va citer Isaïe 66, verset 1. « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui ait fait tout cela? » Dans Acte 7, encore une fois, il y a l'expression « fait par la main de l'homme ». Je pense qu'il revient au chapitre 13 aussi dans le discours avec les Juifs que Paul fait. Et dans Actes chapitre 17 aussi, il revient. Il n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Étienne avait en tête Isaïe 66 et probablement Paul avait en tête aussi Isaïe 66. Le but, c'est de nous amener à la repentance. Mais il fait pour qu'on connaisse notre état de pécheur, non pas par la transgression de la loi, mais par la par la catégorie biblique de l'idolâtrie qu'il fait au verset 24. Mais il faut souligner une chose. Fait par la main des hommes, dans l'Ancien Testament, invariablement, ce terme est utilisé strictement dans un contexte d'idolâtrie. Toujours. Actes chapitre 7, ce qui fait, c'est que pour la première fois, ce terme est utilisé pour des Juifs, pour le temple à Jérusalem. Le temple a tellement pris d'importance que, comme je vous disais, la loi gouvernait tout. Dieu, c'était la place sur la terre sur laquelle il rencontrait son peuple, c'était dans le temple. Et Étienne s'en vient et il dit, ça c'est fait par la main des hommes. La templiologie, ils en ont fait une idole. Ils ont fait du temple une idole. Étienne a été lapidé aussi. Il fait la même chose avec les Athéniens. Et ici, il fait en montrant qu'on provient d'un seul Dieu. Et non pas des dieux qui, dans le fond, y ont des besoins. Et puis que les temples, je viens au temple, et puis il suffit de connaître c'est quoi le besoin de ce Dieu-là. Comme par exemple, je m'en vais sur la mer, j'ai un voyage à faire, bien, je m'en vais voir le Dieu qui gère la mer, puis je fais un sacrifice pour que j'aie un bon voyage. Et là, j'établis une espèce de système de troc ou d'échange avec ce Dieu-là. Et là, je connais ses besoins, je fais un sacrifice et je retire en échange quelque chose. Mais il l'applique même pour le monde religieux. Mais dans les deux cas, que ce soit pour les Juifs, que que ce soit pour les philosophes ou les personnes qui étaient de passage à Athènes, et il y a eu un monde qui sont idolâtres parce qu'ils ont pris quelque chose qui était créé pour en faire une idole. Et là, le paradoxe, la contradiction, c'est que nous étions créés pour régner sur ces choses-là et aujourd'hui, c'est nous qui les adorons. Et Paul, c'est ce qu'il leur démontre. Rendre gloire à quelque chose, rendre quelque chose plus important que Dieu, ne pas glorifier Dieu, but pour lequel nous avons été créés. Je ne dépends pas de Dieu. Et avant de faire la prédication, j'ai testé, j'ai pris un philosophe. Puis j'ai décidé avec lui de ne pas y aller avec la loi, mais de montrer qu'il était idolâtre. C'est pas long. Si Dieu n'a pas besoin de toi, tu es créé pour quoi? Pour lui rendre gloire. Parce que Dieu, il n'est pas loin. Ce n'est pas un Dieu qui est loin. Il veut que tu le glorifies. Puis il m'a répondu, il dit, on est adorateur d'abord. Il dit toujours. Deux jours après, il vient me voir. Ah, j'essaie d'arrêter de fumer. Puis là, j'ai vraiment de la misère. Puis tu sais, ça va pas bien. Puis tu sais, tu es esclave. Tu es idolâtre. Tu es esclave. Tu le reconnais. C'est facile. Ils reconnaissent. Au début, les êtres humains ont été créés pour adorer Dieu. Genèse 1, 26 à 28. Mais à un certain point, il y a eu la chute de l'homme. Et Paul comprend le péché originel comme étant un acte d'idolâtrie. Au lieu de vivre pour Dieu, on a commencé à vivre pour nous-mêmes. Et je vous invite à tourner dans Romains 1. Et le discours de Paul à Athènes est sensiblement la même structure que Romains chapitre 1, 18 à 25. Et on va lire le verset 21. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains discours, dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le péché est un acte d'idolâtrie. Et dès le début de la Bible, on comprend que le péché égale idolâtrie et esclavage, mort. Prenons par exemple les dix commandements. Les deux premiers. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Un cinquième de la loi, les premiers, concernent l'idolâtrie. On adore le Dieu incréé qui était dans toute l'éternité avant même qu'on existe, par lequel je respire. C'est ça que Paul dit dans Actes 17. Tout notre respire dépend de Dieu. Prenez un respire. Par la grâce de Dieu. Tout ou vous adorez quelque chose qui a été créé par ce Dieu-là. Et entre les deux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité de ne pas adorer. Et dans ce passage, entre autres, on se tourne vers les idoles. Parce qu'on veut vivre pour nous-mêmes, mais ces idoles viennent qui contrôlent nos vies. Et au verset 25, on apprend en quelque sorte la stratégie de ces idoles. Jumelé avec le verset 21, il dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » On place une idole dans notre cœur. On lui donne de l'amour. Puis on vient qu'on adore cette chose-là. Et il faut dire que l'idolâtrie dans la Bible n'est pas limitée au peuple primitif qui adorait Zeus ou tous les autres dieux. L'idolâtrie, c'est de prendre quelque chose de la création, de le mettre dans notre cœur, lui donner de l'affection, de l'amour. Mais il y a deux conséquences à ça que Paul nous dit. Une déception. Ils se sont égarés, leurs cœurs se sont assombris t'es esclave. T'adores, tu les sers, tu deviens esclave de ces choses-là. Mais pourquoi c'est un bon chemin à prendre de parler de l'idolâtrie? Bien, premièrement, c'est un modèle biblique. Mais si j'utilise toujours la loi, si j'attire toujours l'attention sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous, et par conséquent, je mise toujours plus sur le comportement au détriment de l'attitude. Le péché, ce n'est pas juste un comportement. Je n'ai pas tué mon frère ou je l'ai tué. Ou j'ai pas, tu sais, j'aborde pas la vie chrétienne avec une liste d'impératifs dans ma vie. Non, j'attire juste sur le comportement extérieur. Mais c'est une question d'attitude. Première application, je suis tombé sur un texte de Tim Keller et lui, dans son évangélisation, en l'espace de 5 ans, il a passé de 30 personnes à 5000 dans son église à New York avec 3 implantations d'église. Et il utilise la catégorie de l'idolâtrie. Quand on lui a demandé qu'est-ce que ça fait que tu utilises cette catégorie, il dit, cela comprend toutes les personnes. Et à ce point, il attire l'attention sur ceci. Il dit, beaucoup de personnes ont été blessées par la religion. Et le pharisien, terme qu'il utilise, le religieux, semble être le modèle de chrétien par excellence dans ces cas-là. Une bonne façon de vivre, il s'habille d'une telle façon, il fait des prières de telle façon. Il se pointe à l'église de telle façon et il mange le pain de cette façon-là. Et soit dit en passant, le pain a cette structure-là. Et la coupe a une certaine forme. Et ça, c'est des vrais chrétiens. Ça, c'est le modèle qu'on a. Mais quand on arrive avec l'idolâtrie, c'est tout le monde est inclus là-dedans. Autant le pharisien que le légalisme dans nos églises. Et à ce point-là, l'accent mis sur l'idolâtrie évite ce problème. Écoutez ces paroles. Nous devons le faire d'une manière qui permet pas seulement aux prostituées de changer, mais aussi aux pharisiens puis aux légalistes. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé tout de suite à la deuxième application. Et cela nous implique aussi. J'avais commencé à rédiger son affaire, j'ai fait tout de suite ma deuxième application, j'ai continué la lecture de ce texte. La deuxième application de Tim Keller, il dit, c'est parce que ça m'implique aussi. Ben, je ne suis pas pire. Mais je remarque que ça m'implique aussi. Et par conséquent, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu dit que tout le monde, on est idolâtre, du légalisme à la prostituée, du drogué jusqu'à l'alcoolique, de ce qui est celui qui est pornophile jusqu'à celui qui est menteur, de celui qui est tout le monde, du pharisien avec la samaritaine. Et cela personnifie l'idolâtrie. Faire une idole signifie donner de l'amour à cette idole qui est placée dans notre cœur et non au Créateur. Et dans ce cas, il est beaucoup plus facile d'amener les personnes à considérer qu'ils sont séparés de Dieu, loin de Dieu, parce qu'ils donnent de l'amour et de l'affection à autre chose de ce pour quoi ils sont créés. Et c'est pour ça que Paul utilise la catégorie de l'idolâtrie. Et comment qu'il commence? Il commence en ayant un bon fondement, c'est-à-dire une vision de Dieu. Regarde à Dieu et toutes les applications du discours vont découler. Toute la gang. Il ne commence pas par un discours légaliste. Il commence par mettre la place de Dieu. Maintenant, fonder une église. Je parlais avec Michel Penneau et avec Will, on parlait aussi il y a quelques semaines. Et indépendamment, les trois, on est arrivés à la même conclusion. C'est le fun, je suis un petit peu dans le milieu de ces discussions-là. Et dans l'établissement d'une église, et c'est tout un défi pour notre assemblée, c'est que la fondation d'une église dans notre société se fait comme ceci. Il y a 3 thèmes principaux. Premièrement, on trouve l'ecclésiologie, la christologie, la missiologie. C'est-à-dire qu'on va installer une église, après ça, on fait de l'évangélisation, l'objectif étant d'amener les personnes dans cette église-là, et ensuite de ça, on essaye de créer le désir missionnaire de ces personnes-là pour qu'ils puissent aller chercher d'autres mondes. Ça va? C'est ça qu'on fonctionne? On installe une église, on fait de l'enseignement, eux autres, ils partent. Et dans le livre des Actes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et j'ai réalisé ça, et dernièrement, le modèle est à l'envers. On commence par le désir d'aller annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est par grâce, je l'ai reçu, puis je veux vivre pour Dieu, puis je veux aller annoncer l'Évangile. C'est ça que Paul y fait. Il dit, il regarde, il n'y a pas personne qui y a demandé, hey, « Il faut que tu ailles voir les épicuriens. » Ils rentrent dans une synagogue. C'est un acte de volonté d'étudier la culture. Il est en mission. Et c'est notre rôle à chacun de nous. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous allez accepter l'évangélisation si on vous l'offre? Et ensuite de ça, il établit l'Évangile. Point non discutable. Et s'il faut que je me fasse lapider pour ça, je vais me faire lapider pour ça. Mais c'est le seul sujet non négociable, c'est l'Évangile, verset 18. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus, de la résurrection, et toute la structure du discours s'en va pour ramener Jésus-Christ. L'Évangile, par la grâce, pas un code de loi, pas une manière de vivre, pas une nouvelle vision du monde. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Suis-je prêt à participer à ce que Jésus nous a commandé, c'est-à-dire implanter l'Évangile? La mission, c'est tout chacun de nous. Il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui ne sont pas à l'aise. D'aller implanter l'Évangile. On n'est pas tous appelés à aller au Congo puis en Roumanie. Ça peut être dans notre milieu. Ça peut être chacun de nous au travail. D'ailleurs, il faut que ce soit chacun de nous au travail au départ. Et de là, quand l'Évangile est fondé, quand l'Évangile est implanté, de là va découler une assemblée. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Ils crurent plus tard. Tout ce que ça nous dit, c'est que Paul n'a pas manqué son coup. Ça veut dire qu'il y a des personnes que c'est plus long. Il faut qu'ils reconstruisent la vision du monde. Ils ont déjà une vision qui est biaisée, qui a des erreurs dedans. Il faut qu'on reconstruise, il faut qu'on arrache des choses. Il faut que j'en arrive à l'Évangile. Je vais donner ces trois applications. Suis-je capable de m'adapter à mon auditoire? Suis-je prêt à témoigner de Jésus-Christ? Suis-je prêt à participer à ce que Jésus nous a commandé, c'est-à-dire d'implanter l'Évangile? C'est peut-être la rue d'à côté, c'est peut-être dans le quartier là-bas, c'est peut-être à l'université, c'est peut-être à Saint-Maurice, c'est peut-être à Pointe-du-Lac. Suis-je prêt? Et j'aimerais que vous répondiez à cette question. À ces trois questions. Et si vous répondez oui à ces trois questions, j'aimerais vous dire que ça ne dépend aucunement des anciens, des diacres, de vos femmes, de vos enfants. Ça dépend juste de l'amour que vous avez pour Jésus-Christ. C'est un acte de volonté. C'est un acte d'intelligence. Ça veut dire que je vais réfléchir à l'Évangile, je vais me remettre en question. Mais il y a une chose que Paul n'est pas prêt à négocier, par exemple. Je vais amener l'Évangile, Jésus-Christ. Je n'arrêterai pas à création, je n'arrêterai pas au fait que je lui ai dit qu'ils sont coupables, mais je vais lui annoncer la grâce qui est en Jésus-Christ. Et si vous répondez non à ces trois questions ou à l'une d'entre elles, je vous invite à considérer Actes chapitre 17, 13, 1 Corinthiens chapitre 1 et 2. Romains chapitre 1, et finalement, tout le Nouveau Testament. Je vous invite à considérer comment vous avez reçu l'Évangile. Et vous allez être obligé de dire qu'invariablement, c'est par la proclamation de l'Évangile que vous avez reçu l'Évangile. Et c'est le moyen que Dieu a choisi. Ça ne veut pas dire « moi ici en avant ». Ça ne veut pas dire « il faut que j'aille à l'aéropage, dans un lieu public, à l'université, puis à me faire lancer des pierres ». Mais ça veut juste dire que je vais accepter le défi de présenter la grâce qui est en Jésus-Christ intelligemment, avec amour. Et si vous êtes dans l'Église pour la première fois, ou encore si vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé, que vous n'avez pas l'assurance de votre salut, bien, considérez une chose. Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. C'est par grâce. Et si il a décidé de créer la croix, puis tout ce qui entoure l'horreur avec cette croix-là, et s'il a créé les flammes de l'enfer, c'est pas pour minimiser sa gloire, loin de là. On est créé pour l'adorer. Invariablement, on va adorer quelque chose. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, l'idolâtrie nous interpelle parce que tous et chacun, on est idolâtre. Et même qu'on doit confesser qu'il y a des péchés dans nos vies qu'on aime plus que toi, malheureusement. Mais on veut que ça diminue. Tu as choisi de nous racheter, mais de ne pas nous rendre parfaits tout de suite. Tu as choisi de travailler dans nos vies à travers des échecs, à travers des chutes, à travers des frustrations, à travers des souffrances, afin que ça puisse nous amener à considérer que tu es gracieux, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu isolé, loin, qui se fout de nous autres. Tu es près de nous, tu nous aimes. Tu nous as appelés, ça ne dépend même pas de nous, Seigneur, parce que nous, on avait nos petites idoles, on avait nos petites idoles qu'on place dans nos cœurs, ce qui faisait qu'on ne pouvait même pas te glorifier, Seigneur. Et on ne veut pas vivre en tant qu'idolâtre si on est chrétien aujourd'hui, Seigneur. Mais pour ça, il faut qu'on arrache ces idoles dans nos cœurs. Et on veut te donner nos cœurs. Amen.